Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Il est 21h ici à Paris, 15h à Washington.
Martin Guèze.
Aux États-Unis, Donald Trump tout sourire. Le nouveau président américain voit ses ennuis judiciaires s'éloigner. Donald Trump toujours plus proche d'Elon Musk. On apprend que le patron de Tesla a même participé cette semaine à certains coups de fil diplomatiques, comme avec Volodymyr Zelensky. Aux Pays-Bas, réaction et indignation après les violences d'hier soir en marge du match de football Ajax-Maccabi Tel Aviv. Vous entendrez le témoignage d'un des supporters du club israélien. À Budapest, au sommet du Conseil européen, l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi tire la sonnette d'alarme. Le vieux continent est largué en matière d'innovation. Enfin, retour à la case départ pour un porte-conteneur en Albanie, suspecté de transporter des déchets toxiques. Aux États-Unis, semaine de rêve pour Donald Trump. Largement élu président mardi face à sa rivale démocrate Kamala Harris, le milliardaire républicain pourrait également dire adieu à ses ennuis judiciaires, empêtré dans plusieurs procès avec notamment des poursuites contre lui après l'affaire du Capitole de janvier 2021, lorsque lui et ses partisans avaient tenté de renverser l'élection de 2020. Un abandon de charge qu'a laissé sous-entendre le juge responsable du dossier, RFI Washington, Guillaume Nodin.
La juge Tania Chutkan n'aura mis que quelques instants à valider la demande du procureur spécial Jack Smith qui mène les poursuites contre Donald Trump dans l'affaire jugée à Washington. Toutes les échéances liées à l'affaire sont suspendues, le temps d'évaluer les suites à donner, ce sera sans nul doute un abandon des poursuites et on devrait le savoir avant le 2 décembre. C'est que mardi, il y a eu l'élection de Donald Trump, il doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain et la politique du département de la justice est de ne pas poursuivre les présidents en exercice. Donald Trump aurait de toute façon mis fin à ses poursuites à son arrivé à la Maison-Blanche. Le dossier était déjà beaucoup moins solide depuis que la Cour suprême a accordé une large immunité au président en exercice. Deux autres dossiers sont également dans les limbes, celui des documents secrets sur lequel travaille aussi Jack Smith. Il a été suspendu sine die par la juge de Floride qui le supervise et qui a été nommé par Donald Trump. Suspension indéfinie aussi dans l'affaire de tentative du renversement du résultat de l'élection de 2020 en Géorgie. On n'attend que la peine réservée à Donald Trump après qu'il a été reconnu coupable de falsification de comptes par la justice de New York. C'est prévu pour le 26 novembre et cela repose uniquement sur les épaules du juge Merchan qui doit être dans ses petits souliers. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Les États-Unis, où on apprend à l'instant via l'AFP que le milliardaire Elon Musk, grand soutien de Donald Trump, a participé mercredi à l'appel entre le nouveau président américain et le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui aurait passé le téléphone à Elon Musk, qui s'est ensuite brièvement entretenu avec Volodymyr Zelensky. Et puis États-Unis toujours, le ministère de la Justice qui a annoncé l'inculpation d'un Iranien accusé d'avoir reçu l'ordre de Téhéran d'assassiner Donald Trump. Un projet qui aurait été directement commandité par le corps des gardiens de la Révolution, selon un communiqué de la justice américaine. L'armée idéologique de la République islamique qui aurait voulu venger l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. C'était lors d'une frappe de Washington en Irak et c'était en 2020. En Europe, direction les Pays-Bas, un antisémitisme répugnant, des événements terrifiants. Voilà comment le Premier ministre canadien Justin Trudeau qualifie les heurts en marge de la rencontre Ajax-Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa hier soir à Amsterdam. S'ajoutant aux nombreuses condamnations et réactions internationales, 62 personnes ont été arrêtées et 5 ont été brièvement hospitalisées. Après plusieurs incidents violents contre des supporters israéliens, certains ont été roués de coups, d'autres jetés dans le canal. La police qui rapporte des violences des deux côtés, pointant également la destruction d'un taxi par les partisans du Maccabi, ainsi que l'incendie d'un drapeau palestinien ou encore des chants hébreux hostiles. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un supporter du Maccabi Tel Aviv. Il relate sa fin de soirée cauchemardesque à Julien Chavan, ce fan qui s'apprêtait à monter à bord d'un des avions affrétés par Israël pour rentrer à Tel Aviv.
Tout allait bien, le match était parfait, on a passé un moment formidable avec tous les fans pendant le match. Et tout allait bien dans le train pour rentrer du stade. Mais ce n'est pas une question de football, ce n'est pas lié au football. Quand nous sommes entrés dans la gare de Dam, nous avons été pris dans une embuscade. Et la police, au lieu de nous garder en sécurité, de servir de bouclier humain entre nous et eux, ils nous ont éloignés de la station pour vider la gare. Et en fait, ils nous ont mis dans le piège. Et ensuite, ça a tourné au cauchemar.
Hundreds of Muslims
En fait, il y avait, je sais pas, je dirais des centaines de musulmans qui nous attendaient à chaque coin de rue. Ils se sont séparés par équipe de 15-20 personnes et à chaque carrefour, à chaque pont, dans chaque tunnel, ils vérifiaient les passeports. Il y avait aussi des motos avec 2-3 personnes dessus. Ils nous attendaient, ils ont jeté des gens dans le canal et ils ne les laissaient pas sortir. C'était un cauchemar. C'était une véritable zone de guerre dans les rues et personne n'a été capable de nous protéger. On était seuls pour se débrouiller. Je n'ai jamais connu ça. C'est une honte ce qui s'est passé là-bas.
I never experienced something like that, and it's a shame that happened over there.
Et un premier avion envoyé par Israël a donc évacué les supporters d'Amsterdam jusqu'à Tel Aviv ce soir. La maire de la ville néerlandaise, Femke Halsema, qui parlait d'explosion d'antisémitisme. Le président américain Joe Biden parle ce soir, lui, d'attaque abjecte, rappelant les moments les plus sombres de notre histoire. Au Liban, 3 personnes ont été tuées aujourd'hui lors de frappes israéliennes sur la ville de Tyr, tandis que 30 autres ont été blessées selon un bilan préliminaire du ministère libanais de la Défense, de la Santé. Par ailleurs, l'Agence nationale d'information libanaise a affirmé que l'armée israélienne avait dynamité plusieurs maisons dans 3 villages du sud du pays et avait effectué plusieurs bombardements aériens. La FINUL, Force des Nations Unies, accuse, elle, à nouveau Israël d'avoir endommagé l'une de ses positions dans une action décrite comme délibérée et directe. Le Hezbollah, enfin, a indiqué avoir tiré plusieurs missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv. RFI 22h06 à Khartoum, au Soudan. Les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, qui accusent leurs rivaux de l'armée soudanaise d'avoir tué plus de 60 civils lors d'une frappe aérienne sur un camp déplacé dans le nord du Darfour. Les FSR qui sont eux accusés par les autorités soudanaises d'avoir causé la mort de 120 personnes dans l'état d'Al Jazeera. Au Botswana, à présent, le nouveau président, Duma Boko, qui a prêté serment ce vendredi, 10 jours après sa victoire surprise lors des élections générales. Sa formation politique, l'UDC, l'a emporté face au BDP, parti au pouvoir et aux commandes depuis 60 ans, marquant donc une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe. À 54 ans, l'homme d'État était investi dans le stade national devant plusieurs chefs d'État comme ceux de Madagascar, de Namibie, de Zambie ou encore du Zimbabwe. Et puis à Maurice à présent, plus que quelques heures de campagne avant les élections législatives qui se tiendront dimanche dans l'archipel de l'océan Indien. Souvent cité en exemple pour sa stabilité politique, Maurice, qui est touché par plusieurs scandales ces dernières années, dont l'a amené à la démission de la présidente Amina Gourib Fakim en 2018. Cette année, la campagne électorale a été troublée par des fuites d'écoutes téléphoniques touchant notamment des membres du gouvernement, ce qui a conduit les autorités à bloquer les réseaux sociaux pendant 24 heures. La campagne mauricienne sur laquelle nous reviendrons, ce sera dans la dernière édition d'Afrique Soir avec Sylvie Birouet. Rendez-vous 22h30, temps universel. Et puis en Europe, à présent, l'actualité, c'est ce Conseil européen réuni depuis hier à Budapest, avec aujourd'hui au menu des discussions en Hongrie, le rapport Draghi pour la compétitivité du vieux continent. L'ex-chef du gouvernement italien Mario Draghi, qui promet une lente agonie européenne sans investissement massif dans la recherche ou l'innovation. Selon lui, les Européens sont à la traîne, derrière la Chine et derrière les États-Unis. Et la récente élection de Donald Trump ne devrait rien arranger. Je vous propose d'écouter Mario Draghi, ancien Premier ministre italien, ancien président de la Banque Centrale Européenne.
Les recommandations de ce rapport étaient déjà urgentes compte tenu de la situation économique dans laquelle nous sommes. Elles le sont devenues encore plus depuis les élections américaines. Il ne fait aucun doute que la présidence de Trump marquera une grande différence dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce ne sera pas que négatif, mais nous devons bien sûr en tenir compte. L'administration Trump va certainement encore pousser le secteur de la technologie, de la high-tech. C'est un secteur dans lequel l'Europe est très en retard, alors qu'il tire la productivité. De grands changements sont à venir et l'Europe ne peut plus se permettre de repousser ses décisions.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Budapest, Carlotta Morteo. On quitte la Hongrie pour l'Albanie, où le porte-container Moliva, sous pavillon turc, est revenu à son point de départ, à savoir le port de Dourès, et ce, plus de 4 mois après son départ en mer. Il stationnait à l'arrêt depuis une dizaine de jours. Voilà la fin du périple pour ce bateau, suspecté de transporter des déchets hautement toxiques, Elodie Papin.
Le navire Moliva quitte l'Albanie début juillet. À son bord, plus de 2 tonnes de déchets industriels, de l'oxyde de fer, selon la déclaration aux douanes albanaises, dont l'exportation est autorisée. Mais un lanceur d'alerte prévient l'ONG américaine Basel Action Network, spécialisée dans la traque des déchets toxiques. D'après lui, le bateau transporterait en fait des poussières de fours à arc électrique utilisées pour la fabrication de l'acier. Ces poussières peuvent contenir des éléments toxiques pour l'homme et pour l'environnement, notamment du plomb, du chrome ou du cadmium. La Thaïlande, destination initiale du Moliva, refuse alors les déchets. Le bateau erre ensuite 4 mois en mer, avec des escales à Singapour, en Italie ou en Turquie. Il a regagné ce vendredi son port de départ en Allemagne, Albanie, où une enquête a été ouverte pour contrebande de marchandises interdites et abus de pouvoir. Selon les responsables du port de Durrës, les conteneurs vont être transportés et ouverts sous la surveillance de la police et leur contenu sera analysé. Les fours à arc électrique sont de plus en plus utilisés par les industriels de l'acier. Ils permettent certes une fabrication décarbonée, mais imposent une gestion stricte de ces poussières toxiques.